corto.
Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission consacrée à la création sonore et aux artistes qui expérimentent avec le son pour en faire des musiques qu'on qualifie parfois d'inclassables. Je l'ai déjà souligné, les artistes sonores, comme la plupart des artistes, ont peu rayonné au cours de la dernière année, hormis quelques prestations en téléprésence. C'est dans ce contexte que j'ai lancé, il y a quelques semaines, une invitation à quelques artistes de rediffuser des travaux récents qui n'ont pas profité d'un public bien présent. Je vous propose donc ce soir les œuvres très récentes de deux artistes dont la démarche est singulière et qui entretiennent une filiation résultant de leur passion commune pour les sonorités à la fois très intenses et relativement bruitistes. Alors il s'agit des artistes Éric Dorion et Alexis Langevin-Tétrault. D'entrée de jeu, pour la première demi de l'émission, on va écouter ensemble une pièce d'Éric Dorion intitulée « À la base, la calasse », une pièce créée pour souligner le 20e anniversaire de production Rhizome. Rhizome, qui est un collectif d'artistes et d'écrivains de Québec qui anime, soutient et fait rayonner la littérature vivante et les formes d'art littéraire. À la base, La Calasse est une œuvre sonore inédite qu'Éric Dorion devait présenter en première publique en mars 2020, ça fait quelques mois tout de même, une présentation qui, malheureusement, n'a pas eu lieu. Éric Dorion, pour parler un peu d'Éric, il est un artiste audio, compositeur et performeur dont l'approche est interdisciplinaire. Il a diffusé son travail au Québec, au Canada et à l'étranger. Il a été commissaire notamment à la programmation du Centre Avatar de 2008 à 2010, le Centre d'artistes de Québec qui se spécialise en art audio. Et Éric a agi aussi à titre de commissaire pour le volet installation sonore du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, une responsabilité qu'il assume depuis 2010. Et c'est un projet dont je vous reparlerai dans quelques semaines puisque le festival a déjà annoncé son programme. Éric m'a déjà accordé un entretien à propos des œuvres qui seront présentées à Victoriaville dans quelques semaines. Depuis 2009, Éric Dorion est en outre un collaborateur fréquent de production Rhizome. Alors, ce projet de création sonore intitulé « À la base, la calasse », je vous en propose maintenant l'écoute en compagnie d'Éric Dorion qui a aimablement accepté de nous en présenter le contexte et la teneur.
Mettre en contexte, en effet, il y a un album que Christian Marclé a sorti en 89 ou en 90, si ma mémoire est bonne. Et cet album-là s'appelle More Encore. Et Christian Marclé, pour reprendre tes auditrices et tes auditeurs, pour vous resituer, pour ceux qui ne connaissent pas Christian Marclé, Marclé, c'est un ce qu'on peut vraiment appeler un artiste plasticien, donc travaille autant le médium vidéo, les arts visuels, l'installation, et également, il y a une pratique de musicien. Et sa particularité, c'est dans les premiers à utiliser le tourne-disque. C'est vraiment l'équivalent de Martin Tétrault dans le monde de l'art. Et donc, Christian Marclé travaille avec les tourne-disques. Et donc, sur l'album More Encore, l'exercice, c'était que chaque pièce avait ses sources sur l'œuvre d'un musicien, d'une musicienne, d'un compositeur, compositrice, et il y avait une pièce sur Maria Callas. Et donc, il travaillait la voix et ça m'a habité dès l'achat de cet album-là. Donc, aux alentours de 95-96, j'ai acheté cet album-là. Et puis, il m'accompagne depuis 95, en fait. Et donc, dans les dernières années, dans des concerts d'improvisation, il m'est arrivé à quelques reprises de sortir la voix de la calasse. Et donc, l'invitation a été faite par Rhizome pour que je crée une pièce. Donc dans le cadre du 20e, et donc j'ai pris cette piste-là. Faut dire que j'avais déjà travaillé cette pièce-là en concert auparavant à Rouen pendant la Biennale d'art performatif. Et donc j'avais fait une esquisse en concert. Et puis là pour l'événement, pour Rhizome, je l'ai performé et enregistré live comme ça. Donc c'est mettons pour rajouter un petit peu plus de détails, le procédé, c'est vraiment d'allonger, de superposer la voix de la calasse, et également de rajouter d'autres voix. Là, j'ai pas été aussi pur que Sam Hartley, là, c'est-à-dire que j'ai quand même mélangé d'autres voix, entre autres de l'opéra de Ligeti, La danse macabre. J'ai utilisé quelques voix de Ligeti aussi là-dedans. Donc c'est en gros c'est ça, c'est l'histoire de cette fameuse pièce.
Thank you.
Voilà, on vient d'entendre la toute dernière création d'Éric Dorion intitulée « À la base, la calasse », une œuvre créée pour souligner le 20e anniversaire des productions Rhizome, un organisme dédié aux arts littéraires. Pour compléter la demi, on écoute ensemble une pièce d'Éric Dorion tirée d'un album récent intitulé « Infravivant », un album créé autour de l'artiste Sun Ra. Alors, on écoute cette pièce tirée de l'album Infravivant.
This today is a judgment day. It is more likely examination day. A ruler rules the judgment be this day to judge and examine. Today is examination day. Too long delayed, but yet are you too blind to the evils of non-discrimination that you dare not understand? Are you so willfully ignorant of what you should be that you think you are only what others say you are? Yet perhaps you fail to realize that what you are, and thus so, thusly, and what you reap is what you sow, and so what you reap is what you are. Amen. Because what you am is what you be. And what you is, you am, and what you be, you are. If what you are is what you sow.
Message to the earth man from the sun man. Hey, look. Sun man speak to earth man. Thank you. Sun Man speak to Earth Man. Thank you.
Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Vous êtes sur les ondes de CKRL. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promotionnel.
CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde, c'est la Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin, avec vous jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL, le 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant, ou presque, sur le site. Alors, vous trouverez ça facilement sur la toile. Comme je l'ai mentionné en première demi, de nombreux artistes sonores ont très peu rayonné au cours de la dernière année, hormis quelques prestations en téléprésence ou parfois même en live, et c'est dans ce contexte que j'ai proposé à quelques artistes de rediffuser des travaux récents. Comme suite aux œuvres d'Éric Dorion, je vous propose maintenant deux œuvres très récentes de l'artiste Alexis Langevin-Tétrault, qui entretient avec Éric Dorion une filiation en ce qui concerne leur passion pour le timbre sonore et le bruit. Alexis nous propose donc ce soir deux œuvres. Une première pièce intitulée Hypercube, qui a été présentée dans le cadre du festival Mutec 2020. C'est une œuvre performée avec un dispositif sonore de forme cubique qu'il manipule dans l'espace. Cette pièce sera suivie d'une œuvre inédite intitulée Vastes espaces vides. Alexis Langevin-Tétrault, c'est un artiste interdisciplinaire qui aime combiner la composition musicale, les technologies numériques, les arts plastiques et la performance. Ses œuvres explorent la relation corps-machine, une démarche se caractérisant notamment par une scénographie élaborée autour de dispositifs audiovisuels et audio-numériques. Alexis Langevin-Tétrault a participé à la fondation de différents projets de musique électronique et d'art numérique, dont les collectifs Falaise, Data Noise, Quader et Ilea. Son travail a été en outre présenté dans plus d'une centaine d'événements nationaux et internationaux, dont Mutec, Le Mois Multi et Ars Electronica. Alexis a aimablement accepté de nous présenter ses créations récentes que je vous propose à l'instant. Alors voilà, parole à Alexis Langevin-Tétrault.
Ouais, c'est un projet qui m'a tourné dans la tête pendant peut-être 2 ans là, avant que je l'incarne réellement. Puis en fait, ce projet-là, moi, quand je travaille, j'ai toujours plusieurs inspirations qui vivent en même temps, je dirais, plusieurs couches de signification qui s'accumulent. Au départ, moi, c'était vraiment la forme géométrique hypercube qui m'intéressait. Il y avait quelque chose là que je trouvais esthétiquement puis conceptuellement intéressant. Un hypercube, en fait, c'est une forme géométrique, mais dans la quatrième dimension, si on accepte que la quatrième dimension, c'est le temps. Donc, c'est une forme géométrique qui n'existe que dans son déploiement temporel. Puis ça, moi, je trouve qu'il y avait une espèce d'analogie avec ce que je fais dans mon travail. C'est toujours des choses qui se déploient, de l'énergie qui se déploie sur une durée temporelle, que ce soit de la musique, de la lumière ou de l'image. Donc ça, c'est un peu la porte d'entrée. Puis symboliquement, l'hypercube est souvent utilisé en art visuel ou au cinéma à plusieurs endroits pour incarner un peu comme un portail vers une autre dimension. Ça peut être quelque chose de spirituel, comme ça peut être quelque chose de plus science-fiction, là, mais une espèce d'une porte qui s'ouvre vers un autre univers, vers un autre espace-temps un peu. Donc, il y avait ces éléments-là qui, comme je vous disais, c'est très intuitif, là. C'est rien de très, très, très sérieux conceptuellement, mais moi, ça m'allumait là, puis j'avais une espèce de... Je travaille beaucoup comme ça aussi, j'avais une image du dispositif, j'avais quelques mouvements que j'avais envie d'essayer, que je trouvais que c'était... qu'il y avait quelque chose d'esthétique là-dedans que j'avais envie de travailler. Puis, ce que je voulais faire aussi, c'est vraiment travailler avec une autre type d'énergie que ce que j'ai fait par le passé, c'est-à-dire me présenter beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus calme sur scène, moins combatif que dans mes projets un peu plus récents. Donc de dégager un autre type d'émotion, vraiment, d'aller dans un autre espace, puis de faire donc aussi une image, puis des sons en relation avec cette énergie-là. Donc c'était quelque chose d'attrait assez... je le ressentais bien à l'intérieur, mais il fallait que je le voie sur scène pour voir comment ça fonctionne. Puis j'ai été chanceux, grâce à Mutec, là, qui m'ont donné cette opportunité-là pendant les quelques semaines où on avait le droit de faire des présentations. Moi, ça m'a permis donc de sortir ce projet-là de ma tête, de le mettre sur scène, puis de voir en fait ce que j'essaie de dire avec ça. J'ai comme besoin d'avoir les mains dans la matière, moi, en fait, pour comprendre ce que je fais. Puis donc, ce projet-là, je dirais que c'était la première étape. Là, j'ai vu sur scène, mais je vais continuer d'y travailler. C'est pas la forme aboutie, je dirais, de la performance. Ça, c'était le point de départ. Je vais continuer à la faire évoluer. Et là, évidemment, ça va évoluer sur scène. Donc, ça dépend beaucoup de la situation sanitaire. Mais dès que ce sera possible, moi, c'est ce que je souhaite, là, c'est faire tourner ce projet-là pour continuer à explorer ce que je peux faire sur scène comme mouvement, puis ce que je peux dire à travers ça. Puis aussi, il y avait le concept de le mythe de Prométhée à quelque part là-dedans aussi, qui se juxtaposait. Tu sais, Prométhée a volé le feu au dieu de l'Olympe pour aller le donner aux humains dans le but de les protéger. Mais le feu, c'est comme un objet à double tranchant, dans le sens que ça peut être une force positive qui protège, qui réchauffe, mais ça peut être la destruction aussi. Ça peut Puis le feu, à quelque part, c'est la technologie, finalement, si on remet ce mythe-là aujourd'hui. Donc, il y avait un peu cet élément-là de dire « je veux jouer avec le feu, je veux jouer avec quelque chose qui est à la fois menaçant, mais à la fois qui est beau et qui a un potentiel. » Puis j'essaie de jouer un peu sur cet équilibre-là là, dans la performance. D'emblée, il faut que je dise que Lucas Paris m'a beaucoup aidé à construire ce dispositif technique-là. C'était mon conseiller technique là, sans qui je n'aurais pas réussi à le faire de cette façon-là. Et bon, en fait, c'est un hypercube, c'est comme un grand cube, c'est-à-dire c'est un petit cube dans un grand cube, si on veut. C'est une forme sur elle-même. Et donc, c'est assez simple, en fait. C'est des extrusions d'aluminium, c'est un cube en aluminium. À chaque coin, j'ai accroché des espèces de câbles extensibles, qui est le genre de matériau que j'utilise souvent là, dans mes projets sur scène. Et c'est-à-dire les huit coins du cube vont venir s'attacher au cube central, le plus petit. Et c'est sur le petit cube que tout se passe, en fait. Là-dessus, j'ai toutes sortes de capteurs puis de façons d'interagir en temps réel avec le son et avec la lumière que je produis. Il y a un accéléromètre, donc, qui me donne trois angles, un peu l'orientation du cube dans l'espace. J'ai des capteurs de tension à chaque point d'accroche, ce qui me permet de déduire un peu une position, finalement, là, de ces différents capteurs-là, une position dans l'espace du cube. J'ai aussi des surfaces capacitives, donc le cube le sait quand je le touche, puis il sait où je le touche, si on veut. Puis avec ces capteurs-là, moi, donc, ça me permet de contrôler des processus de synthèse et de la lumière qui est générée en temps réel dans mon ordinateur, mais l'ordinateur est caché. Pour moi, c'est important que j'essaie de faire quelque chose d'un peu magique. J'essaie pas de dévoiler le procédé, puis c'est pas important que ça soit de l'art numérique. Là. Pour moi, ça a vraiment pas d'importance. Puis ouais, donc ces mouvements-là, la force que j'y mets, les différents mouvements que je fais vont vraiment orienter ce que les gens voient et entendent. Et donc ça me permet vraiment de mettre toute mon énergie, puis vraiment d'avoir une relation intime à l'objet, si on veut. Puis contrairement à mes autres dispositifs où il fallait que je sois un peu pratiquement violent avec mes dispositifs, là, je peux y aller aussi en nuance, puis en subtilité. Puis la moindre interaction va avoir une incidence sur ce qui se passe. Alors, ça convenait vraiment bien à ce que j'essayais de faire, là, d'aller dans une autre direction.
Alors voilà, ça complète l'écoute de cette première pièce intitulée Hypercube d'Alexis Langevin-Tétrault. On écoute Alexis nous parler brièvement de cette pièce intitulée Vastes espaces vides.
Oui, ben ça, c'est vraiment un projet qui est né de la situation de confinement, du fait que j'étais un peu prisonnier de mon studio, j'avais plus la possibilité de présenter mes projets, mais j'ai encore envie de créer, j'avais encore envie de... Alors, je retourne un peu à mes premières amours, qui est la composition, l'art sonore, travailler avec des synthétiseurs modulaires, me refaire des systèmes un peu similaires comme je fais sur scène, mais adaptés à mon studio, donc des systèmes d'interrelation entre plein de technologies. Puis, ben, en fait, mon studio, il est plein de fenêtres, puis il est situé sur un coin de rue, et le fait qu'on soit en confinement a complètement changé la sonorité des lieux, je dirais. Normalement, il y a du trafic, j'entends toujours des gens qui passent, il y a de la vie, et là, c'était complètement désert, j'entendais les sons à 1 kilomètre plus loin, puis il y avait une espèce de réverbération ambiante qui me faisait entendre toutes sortes de sons que j'avais jamais entendus, en fait, des trucs plus délicats. Et j'ai eu envie un peu de partir de cette impression-là d'espace vide, de son qui résonne dans le vide, de lieux désertés, puis de travailler à partir de ça. Donc c'est de la synthèse sonore que j'ai joué aussi en temps réel, que je réarrange après un peu, que je mixe, que je travaille. Mais il y a quand même quelque chose de relié à un processus qui est joué en temps réel, un peu comme un instrument. Puis je travaille beaucoup avec la réverbération. J'ai développé différents systèmes là, pour jouer de l'espace d'une certaine façon, comme si c'était un instrument musical. C'est un paramètre qui est toujours là dans la musique, mais qui était peut-être moins présent avant. Là, j'ai vraiment mis ça de l'avant. Ça m'amène encore là à faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire je travaille beaucoup plus avec les silences, la temporalité beaucoup plus lente. Puis je suis assez content en fait de ce que j'ai créé là-dedans. Là. J'ai l'intention de publier ça prochainement. Là.
Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités de l'artiste sonore et performeur Alexis Langevin-Tétrault. Mes plus sincères remerciements accompagnent Alexis et Éric Dorion de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres et de m'avoir accordé du temps de présentation. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille. C'est facilement repérable sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL 89.1.